Europe 1 Culture Média. 9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, même la voix un peu nouée pour finir la semaine et cette première saison de Culture Média. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et toujours plus nombreux au menu. Vous le savez, médias et culture au sens large, tous les médias, toutes les formes de culture. Il y aura évidemment le journal des médias de Série de la Carrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino. Une émission très particulière, une sorte de best-of. On vous a concocté un menu particulier, le meilleur des films de la saison, des séries de la saison, des humoristes de la saison, des tubes de l'été et de la cuisine d'été. Notre info média, on va faire un point sur le mercato télé et l'année des médias avec François Rousseau. Qui part, qui reste, qui s'en va? François Rousseau, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France. À propos de transfert, on sera également avec celle qui va prendre la relève de Culture Média pour vous accompagner tout l'été, et je m'en réjouis, Pascal Clark. Et puis, notre invité média, Margot Laffitte, présentatrice de l'émission Formula One sur Canal+, car la saison de F1 reprend ce week-end en Autriche, à huis clos. C'est la première grande compétition planétaire qui redémarre dans des conditions de sécurité spartiates, et toutes les autres fédérations mondiales ont le regard tourné vers le paddock de la F1. Ça va donc bien au-delà de ce sport. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place au dernier journal des médias de la saison. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Le programme de cette dernière, les éditeurs de presse, pas prêts de se faire de la moula grâce à Google, le New York Times qui quitte Apple News, RSF qui sort son nouvel album pour soutenir la liberté de la presse et de l'argent frais bientôt pour les chaînes de télé.
Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Un taxi 3 pour la route, le troisième épisode de la série de films produit par Luc Besson, est en tête des audiences. Plus de 4 millions de personnes étaient devant TF1 hier soir. France 3 suit juste derrière. France 3 toujours inarrêtable. Ouais. Il n'y avait pas loin de 4 millions de personnes devant la rediffusion, devant une rediffusion du téléfilm Puzzle.
C'est incroyable.
Et enfin, Le Grand Échiquier est troisième du podium, loin, très loin des leaders. Moins d'1,5 million de téléspectateurs ont suivi ce nouveau numéro de l'émission de France 2, Le Grand Échiquier, qui peine toujours à trouver son audience.
Mais quand même troisième.
Culture Média.
On commence ce journal des médias avec la bataille entre Google et les éditeurs de presse qui est loin d'être terminée.
Rapide rappel des faits précédents. En juillet 2019, la France est le premier pays à transposer la directive européenne qui permet aux éditeurs de presse, c'est-à-dire les journaux, les magazines et les sites d'information, de demander aux plateformes d'être rémunérées pour l'utilisation de leur contenu. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu, c'est même tout l'inverse. Après avoir tenté par tous les moyens de faire capoter le projet de directive à Bruxelles, Google annonce une refonte de Google d'actualité pour contourner la loi française et ne pas sentir de cash. On en a beaucoup parlé à ce micro. La tension monte, le gouvernement saisit l'autorité de la concurrence qui finalement rend un avis obligeant Google à négocier, je cite, de bonne foi avec les éditeurs de presse. Et donc, on en vient à l'actu du jour. Google a décidé de faire appel de cette décision qui clairement ne l'arrange pas. Google affirme avoir besoin de plus de clarté juridique concernant cette décision et ajoute main sur le cœur. Bien entendu, notre priorité est de poursuivre les discussions avec les éditeurs français, libre à chacun de se faire son opinion.
Et feuilleton qui sera suivi tout cet été dans Culture Média. Au sein de France Télévisions, le service des sports tente de faire son aggiornamento.
Vous vous souvenez certainement du témoignage de la journaliste Clémentine Sarla. Elle avait relaté des faits de harcèlement moral et de sexisme au sein du service des sports de France Télé. Une enquête interne avait été commandée par la présidence du groupe public. Le rapport a été rendu il y a quelques jours. Et si on n'en connaît pas encore tous les détails, Delphine Ernotte, c'est la présidente de France Télé, évoque déjà des résultats effarants. Lors d'un comité social et économique qui s'est tenu hier et avant-hier, Antoine Chusseville, délégué du SNJ et journaliste au sein du service des sports, a rappelé avoir alerté durant des années les différentes directions sur les comportements qui régnaient au sein de la rédaction des sports, mais en vain. Selon le représentant des salariés, ce rapport peut faire du mal, mais c'est un rapport nécessaire pour reconstruire sur des bases saines.
Le fond de l'air se refroidit entre Apple News et le New York Times. On est aux États-Unis.
Le quotidien new-yorkais faisait partie des principaux partenaires de la toute nouvelle offre de presse en ligne lancée par Apple. Apple News, le New York Times, sera un des premiers gros partenaires à le quitter. Ce que le journal reproche à Apple News, c'est que Apple ne dirige pas ses utilisateurs vers le site du New York Times et donc prive le site du quotidien d'un lecteur et potentiellement, bien sûr, d'un nouvel abonné. Une des principales dirigeantes du quotidien new-yorkais explique s'être posé plusieurs questions sur l'intérêt ou non de rester sur Apple News. Dans quelle mesure une plateforme comme celle-ci aide le lecteur à accéder au journal? Est-ce que la plateforme aide le site du journal à faire son travail? Et enfin, une question sur la valeur du travail journalistique. Est-ce que la plateforme valorise le journalisme de qualité ou est-ce que tous les contenus se valent? Et la réponse à ces questions, eh bien, c'est que le New York Times quitte Apple News. Une décision forcément plus facile à prendre quand on est le New York Times et qu'on a franchi le cap des 6 millions d'abonnés. Pour vous donner une idée de la force de frappe du titre, au mois de mars, 6 adultes américains sur 10 ont consulté le New York Times. De quoi se donner confiance pour quitter Apple News, qui vous permet quand même de toucher 125 millions de personnes.
Et puis le nouvel album de Reporters sans frontières est disponible désormais dans toutes les librairies.
Trois fois par an, RSF publie un nouvel ouvrage pour soutenir la liberté de la presse. Cet été, l'organisation nous emmène dans les fonds marins grâce au photographe Laurent Balesta. J'ai demandé à Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, pourquoi c'était toujours important d'acheter ce livre.
L'album RSF, c'est un outil de défense de la liberté, de l'indépendance, du pluralisme du journalisme. On est dans un moment où la fiabilité de l'information, l'importance de sa fiabilité, de son pluralisme, sont apparues de manière encore plus cruciale que d'habitude. Acheter cet album, c'est militer pour la liberté de la presse. C'est s'engager pour la fiabilité de l'information à l'occasion de cette épidémie. Il y a eu l'application d'une véritable stratégie du choc de la part d'un certain nombre de gouvernements contrôler encore plus l'information. Dans près de la moitié des pays membres de l'ONU, il y a eu des atteintes à la liberté de la presse. Et peut-être que cette épidémie, elle a permis à certains de comprendre que ce qui se passe au bout du monde, lorsque des journalistes sont empêchés de travailler en Chine, par exemple, ça peut avoir un effet très direct sur nous. Donc aujourd'hui, défendre la liberté des journalistes d'enquêter, d'effectuer des reportages, c'est défendre un principe partout.
Acheter ce livre, c'est soutenir les journalistes, mais aussi soutenir l'action de RSF, pour qui les ventes de ces albums représentent 40% du budget de l'organisation. Et je vous le disais, pour cette édition, RSF a fait appel à Laurent Balesta. Christophe Deloire nous présente le photographe.
C'est un photographe absolument extraordinaire. C'est un plongeur, photographe, ancien assistant de Nicolas Hulot. Il a fait, par exemple, la photographie la plus profonde jamais réalisée. C'était en 2007, à 190 mètres au large de Nice. C'est le premier photographe aussi à avoir su saisir un iceberg dans sa totalité, et notamment la face sous-marine de l'iceberg. C'est quelqu'un qui a passé 28 jours à explorer les fonds méditerranéens, 28 jours consécutifs, en 2019, pour cette plongée presque sans interruption qui a été une plongée inédite.
Le livre de Reporters sans frontières, c'est dans toutes les bonnes librairies pour seulement 9,90€.
Un livre qui ressemble beaucoup également à un magazine. Bientôt de la publicité pour le cinéma à la télévision.
Car oui, en France, les chaînes de télé ne peuvent pas faire de publicité pour les films de cinéma. Ils peuvent en faire pour Netflix, qui fait sa pub pour ses films, mais pas pour les films qui sortent en salle. Bref, cette règle un peu ubuesque est en passe d'être revue. Franck Riester a présenté le décret qui va offrir cette nouvelle possibilité aux chaînes de télé. Et alors que celles-ci, les chaînes, craignaient d'être cornaquées par un texte trop rigide, le ministre a finalement revu sa copie suite à l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Finalement, les chaînes pourront librement faire de la pub pour les films qui sortent en salle, tout en s'engageant, presque moralement, à aussi proposer de la réclame pour les œuvres françaises et d'art et d'essai, et donc pas seulement pour les blockbusters américains qui ont les moyens de faire de la pub à la télé. Le CSA sera chargé de contrôler cet engagement, mais seulement a posteriori. Cette nouvelle disposition doit rapporter entre 20 et 30 millions d'euros par an aux chaînes de télé.
Et alors, quand est-ce qu'on verra des pubs pour les films sur nos télés?
Alors, il faut attendre que le décret soit appliqué, soit signé par le gouvernement. Ça devrait arriver dans les prochains jours, mais avec un remaniement, ça peut être compliqué. Mais dès que le décret est signé, dès le lendemain, ça sera possible.
Donc ça peut être dans deux jours ou dans une semaine. Et Cyril, je suis très étonné que figure pas dans ce journal votre idole. L'idole de ce journal,
Tom.
Le candidat malheureux à l'Eurovision, Tom Leb. Grâce à vous, on n'a pas raté une seule info sur Tom Leb. La preuve. On sait désormais, Cyril, qui va représenter la France au prochain concours de l'Eurovision.
L'heureux élu s'appelle Tom Leb. Seuls quelques extraits des clips des autres concurrents passeront sur France 2. Au moins, comme ça, on est sûr qu'ils ne voleront pas la vedette à notre Tom Leb.
Ça faisait longtemps, Cyril, vous allez nous parler de l'Eurovision et de votre nouveau meilleur ami.
Tom est un petit coquin.
Et puis Cyril, vous souhaitiez dire un mot pour terminer ce journal des médias.
Ouais, Tom Leb ne représentera pas la France à l'Eurovision 2021. Voilà. C'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Hein.
Ouais, c'est dégueulasse.
Je pourrais vous ajouter que France Télévisions a de nouveau décidé de changer de formule pour choisir le candidat. Je pourrais vous dire aussi qu'il y aura même une grande émission pour choisir ce nouveau représentant. Je pourrais vous dire tout ça, mais je ne vous dirai pas. Je ne vous le dirai pas parce que ma chance est passée, a dit un grand gentleman Tom Leb.
Et puis Cyril, vous terminez ce journal des médias avec un habitué de votre journal.
Tom Leb, forever, c'est un peu ce qu'on va se faire tatouer dans le dos. Tom Leb, notre champion de l'Eurovision avortée, sera bien là le 19 juin pour fêter la musique sur France 2. Oui. De quoi nous réjouir me réjouir et réjouir beaucoup de monde dans cette équipe et beaucoup de monde en France.
Exactement.
Pour cette soirée du 19 juin, nous voilà, on peut partir en week-end le cœur léger.
Mais vous connaissez le proverbe, pas de 200e sans Tom Leb. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. Vous attendiez pas celle-là.
Non, 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 non.
Mais pourquoi cette obsession, Cyril?
Je ne sais pas. J'ai bien aimé et j'ai bien aimé ce garçon à qui on a qu'on a critiqué énormément dès le début. Je
me pas. Et vous savez quoi?
C'est
j'ai une surprise pour vous.
Il y a Tom Leb.
Tom Leb. Il est dans le studio.
Non,
il entre dans le studio. Bien sûr, sérieux. Quand on fait une surprise, c'est une surprise. Tom Leb, Cyril Lacarrière.
Vous êtes couillon.
Le fan, l'idole. Bonjour Tom Leb, merci d'être avec nous. Vous étiez au courant que vous aviez un fan psychopathe en la personne de Cyril Lacarrière?
Mais
si, le gars qui parle tout le temps de Tom Leb tous les jours.
On m'a informé il y a quelques mois, on m'a dit t'as une actualité constante grâce à Europe 1, Cyril.
Ouais.
Merci Cyril.
Mais non, mais en fait, vraiment, c'est un truc qu'on une spécialité qui est en France, c'est qu'on choisit quelqu'un et on le critique énormément.
Ouais.
Et je sais qu'on s'en est parlé une fois au moment où on a fait une interview ensemble, et c'était c'est dingue, ça m'agace quoi.
Il faut quand même raconter les choses pour qu'on en parle dans l'un des médias, c'est qu'il y a eu l'annulation du concours de Eurovision pour cause de Covid, mais avant ça, il y a eu le ministre de la Culture en personne qui a pris position contre votre chanson parce qu'il y avait des mots en anglais. Vous l'avez pris comment?
comme je dis toujours, franchement, ça m'a pas plus affecté que ça. Je comprends, c'est tout en son honneur de défendre la langue française. Mais après, de façon de l'anglais, à l'Eurovision, il y en a tout le temps. Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu il y a 3 ans, il y en a eu il y a 4 ans, 5 ans.
Ouais.
Je crois même qu'il y avait plus d'anglais dans la chanson de Bilal que la mienne.
Ouais.
Mais voilà, il s'est dit cette année, on va défendre bien la France, franco-français, 100% français.
Ouais.
Voilà.
On m'a juste dit un truc en coulisses, on m'a dit de vous mettre sur ce micro.
Ça
et pendant
marche.
Ce temps, je pose la prochaine question. Je pose la question, vous voulez rencontrer le ministre?
Non.
Bon. donc finalement, vous ne serez pas le candidat de l'Eurovision.
Mais pourquoi vous n'avez pas eu envie de prolonger ou de tenter l'aventure l'année prochaine?
En fait, c'est une question de timing, c'est-à-dire que c'est dans un an, et moi j'ai d'autres projets, j'ai d'autres choses qui se mettent en place là, d'ici la fin de l'année, et l'Eurovision c'est beaucoup de temps, il faut être vraiment disponible, et dans la tête, et physiquement pendant longtemps, et ça va pas être le cas, donc malheureusement j'ai dû décliner.
En même temps, cette expérience vous a beaucoup, beaucoup apporté, notamment un contrat avec Live Nation, on va dire ce qu'est Live Nation, vous connaissez
c'est
le plus grand tourneur mondial, U2,
ouais.
Madonna et Tom Leb.
Alors c'est gentil.
Bah oui, c'est
vraiment, vraiment merci. Mais je dois dire la vérité quand même, c'est que ce contrat Live Nation, je l'ai eu avant.
Ah d'accord. Ouais. Voilà.
Alors, je veux pas dire que vous dites des fausses informations, mais c'est vrai que j'ai obtenu aussi des choses avant l'Eurovision, mais je voudrais pas.
Voilà. Et vous avez d'autres projets, pas seulement de la chanson, mais également avec le cinéma.
Ouais. Ouais. Il y a 2 films qui sortiront cette année, enfin non, l'année prochaine, qui ont été malheureusement décalés. Pour y gâter de Nicolas Cuche et C'est la vie de Julien Romaldi.
Vous restez avec nous?
Avec plaisir.
On marque une petite pause, vous restez avec nous?
Si vous voulez, avec plaisir.
Dans un instant, l'info média du jour a aussi parlé du Mercato Télé avec François Rousseau, journaliste au Parisien aujourd'hui en France, et Tom Leb et Cyril Lacarrière. Quel plaisir de faire des rencontres comme ça, c'est ça aussi Culture Média. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Yeah, le micro, c'est toujours mieux le micro ouvert, surtout pour la dernière. Culture Média qui continue en compagnie de Cyril Lacarrière et son idole de toujours, Tom Leb. On va raconter aux auditeurs qui prennent l'émission en cours de route. On vous a fait une surprise. Vous avez informé du feuilleton Tom Leb, sa présence ou non à l'Eurovision pendant toute cette saison.
Exactement.
Et il est là en face de vous et vous le rencontrez.
Je tiens à dire que le prochain candidat n'aura pas le droit au même traitement.
Non, c'est impossible.
Chaque candidat pareil. Quoi. Ouais. Voilà. Là, il y a eu un traitement de faveur pour Tom Leb parce qu'il y avait quelque chose de particulier. Voilà.
Mais à la base, Tom Leb, à la base, vous êtes chanteur ou vous êtes comédien?
Ben, les deux, ouais. Ouais, franchement, j'aime autant l'un que l'autre et je pratique autant l'un que
l'autre. Non, mais votre premier métier?
Acteur.
C'est acteur,
ouais.
Est-ce qu'il vous fait manger, est-ce qu'il vous nourrit?
Acteur alors,
voilà.
Ouais, acteur, oui, complètement.
Voilà. Vous allez tourner pour TF1, la deuxième saison de la série Infidèle avec Clark Kent.
Ouais.
Pour qui ne connaît pas la série, il s'agit de quoi?
C'est une histoire, alors il y a plusieurs histoires dans cette série, c'est un peu une série chorale, mais c'est sur l'infidélité évidemment,
ouais.
Sur le fait d'aimer une âme, deux âmes, et puis voilà, je joue le nouveau petit ami de Clark Kent dans la saison 2. Voilà.
D'accord, on n'aime même plus des gens, on aime des âmes. La vie de Julien Rambaldi, c'est tourné, ça va se tourner?
C'est tourné, c'est fait, ça sort le 30 décembre dans les salles. Et ça aussi, c'est un très beau film sur la maternité, donc sur la vie de plusieurs femmes qui vont, c'est en une seule journée jusqu'à l'accouchement. Il y a 8 histoires, je crois.
Ouais.
Donc voilà.
Et vous êtes
Là, cette fois-ci, je joue le petit ami d'Alice Paul.
D'accord.
Voilà, ah oui. En duo avec elle.
Et alors, pour Rigaté, j'aime beaucoup ce titre. Et ouais. De quoi s'agit-il ?
Pareil, c'était une comédie aussi, beaucoup de comédies, ouais. de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, Artus Camilou,
ouais.
Qui est l'histoire d'une famille richissime, dont le père richissime a donné toujours accès à l'argent facile à ses enfants, jusqu'au jour où il décide de couper les ponts. Voilà. Et je ne suis pas l'un d'entre eux, je ne suis pas l'un des enfants.
Vous êtes qui, vous ?
Cette fois-ci, on ne peut pas le dire. Si, le petit ami de Camilou. Voilà.
D'accord. Non, parce que parfois, on ne peut pas dire, parce que ça spoil le film si on dit quel rôle. Vous jouez.
Ça ne raconte pas l'histoire de dire qui on est.
Voilà. Et parallèlement, la musique.
Alors là,
vous allez faire quoi, puisque l'Eurovision s'est annulé. Alors, et surtout, il devait y avoir des festivals, des tournées, des choses qui ne peuvent pas s'éviter. Vous allez faire quoi alors ?
Je continue ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire composer, avancer dans la musique, avoir des nouveaux projets. Alors là, les concernant, mais je suis sur un nouveau projet d'album, enfin de musique, quoi qu'il arrive, je ferai toujours sortir de la musique.
Vous avez une question à poser, Cyril Lacarrière ?
Je voulais revenir un peu moi sur l'épisode Eurovision. Ouais. Est-ce que si un jeune chanteur vous lui conseillez, quel conseil lui donner pour se lancer dans une aventure comme ça ? Ou quand même, c'est dur, quoi.
Chante en français, voilà le conseil.
Non, il chante ce qu'il veut tant que c'est sincère. Moi, je pense que voilà, un conseil à donner, c'est vraiment d'être soi-même et d'avoir des convictions dans ce genre de compétition où il faut plaire à beaucoup de monde quand même.
Oui, mais on voit bien que c'est un truc très politique quand même.
Oui, oui. Comme la France fait partie du Big Five, il y a beaucoup de chance quand même qu'on finisse pas premier.
Oui.
Mais bon, c'est ça peut arriver.
Le Big Five, c'est quoi ?
Le Big Five, c'est France, Italie, Angleterre, Espagne, Allemagne.
Ouais. Ouais.
Et comme il y a tellement d'habitants, il y a beaucoup de votants. Donc
finalement, on se lance dans un concours avec presque l'idée déjà en tête qu'on ne va pas le gagner.
Ceci dit, vous avez un truc absolument extraordinaire, c'est que vous êtes le seul candidat français qui n'a pas perdu.
Alors ça, c'est une vérité.
Ouais.
Bah, y a eu Marie-Myriam quand même.
Ouais. Autre vérité, vous êtes venu avec votre guitare.
Absolument. Toujours.
Avec quoi en tête ? Quel morceau ?
Alors, vu que l'Eurovision est passée...
Moi, je suis pour la version anglaise.
Ouais. Alors, on y va pour la version anglaise.
La version anglaise.
Monsieur le ministre.
Oui,
la première.
Oui.
Celle avec laquelle vous avez été sélectionné.
Évidemment.
Alors, celle avec laquelle j'ai été sélectionné, il y a quand même du français, mais sauf que la chanson m'a été proposée en anglais et elle est dans mon album. Recollection, c'est la première chanson de l'album Recollection et elle est toute en anglais. Est-ce que tu veux la version tout anglais ?
Moi, je veux la version. Oui, je veux la version tout anglais.
Les deux gars, ils se connaissaient pas. Ça y est, en deux minutes, ils se tutoient.
Ah bah oui.
Non, mais c'est ça.
Allez, on y va.
Tom Leb en direct dans Culture Média face à Cyril Lacarrière.
T'as même pas passé pour une midinette.
La version full anglais. Hein.
Yes.
Tell me, I wanna know. I've been wondering, yes or no. When you're close, you see, I'm all that I can be. You are. You are, you are, you are. You are the best in me. You're making it all complete. You are, you are, you are. In every breath I breathe, forever eternally. You are, you are, you are. You are the best in me.
Merci beaucoup, Tom Leb.
Bravo.
Quel plaisir de vous avoir entendu dans ce studio. Merci d'avoir
très sympa avec venir.
Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous toute cette saison. On vous retrouve. Et oui, c'est déjà fini. c'est toujours trop court.
Faut que ça tourne. Hein.
Vous revoyez-vous dans la journée. Débrouillez-vous, les garçons. Culture Média continue. On vous retrouve à la rentrée, Cyril Lacarrière.
Écoutez,
merci
bien,
pour cette année passée en votre compagnie. Culture Média qui continue, l'info média du jour. On va faire le bilan de l'année média en partie confinée avec François Rousseau, journaliste au Parisien aujourd'hui en France. On va également parler du Mercato. Merci encore Tom Leb. Mais d'abord, musique avec Louane et son tout nouveau titre. Ah non, on me dit que c'est pas tout de suite ici. On marque une pause et on entendra Louane juste après ça.
Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Vous le savez, c'est la dernière émission de la saison, l'occasion de faire le bilan de la saison média qui vient de s'écouler, évidemment d'envisager la suivante. Que retenir ? Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Que se passera-t-il dans les médias à la rentrée ? Où en est le mercato ? On fait le bilan avec François Rousseau. Bonjour François.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. D'abord, que retenez-vous à gros traits de cette année média ?
Je retiens que la télé est la grande gagnante. Forcément, avec le confinement qu'on a vécu, jamais les Français n'ont autant regardé le petit écran à la maison. Et même si les plateformes Netflix et compagnie ont creusé leur sillon, la télé dont on disait « ah là là elle souffre de cette concurrence des plateformes, elle est en perte de vitesse », et bien la télé a cartonné. Les Français l'ont regardé 4h43 par jour, c'est 1h15 de plus qu'il y a un an. Ouais. Et même depuis qu'on est déconfiné...
C'est ça qui est intéressant, dites-le.
Exactement. Même depuis qu'on est déconfiné, les gens en moyenne la regardent une demi-heure de plus. On disait qu'elle baissait de 3% la durée d'écoute avant le confinement. Donc ça veut dire que la tendance, elle est là, et chez les jeunes aussi, ce qui est intéressant.
Ouais. Qui à la télé tire son épingle du jeu, François ?
Bah, c'est clairement l'info, évidemment, avec ce qu'on a vécu. C'est les JT. En 2019, les JT étaient en baisse, TF1 avait perdu 300 000 téléspectateurs. Depuis la période qu'on a vécue, TF1 a repris l'avantage sur France 2. Les chaînes d'infos ont cartonné, évidemment, BFM toujours leader. Ouais. Il y a CNews, l'ex-ITélé, qui creuse son sillon.
Là, il y a du nouveau.
Là,
parce que CNews était à la traîne derrière LCI, et là, CNews...
Exactement. Bah, CNews, c'est une chaîne qui a vécu un grand chambardement. En fait, c'est une nouvelle chaîne depuis 4 ans, parce qu'elle ressemble plus du tout à ITélé. C'est plus du tout la même ligne éditoriale. Maintenant, c'est une chaîne d'opinion avec des débats. Et c'est une chaîne qui, là, en juin, passe devant LCI... Et pour le mois de juin, deuxième chaîne Info de France.
Notamment avec sa nouvelle figure emblématique, Éric Zemmour.
Exactement.
On va le dire.
Ça a marché, forcément, ça a été contesté, mais il a fait passer la case de 80 000 téléspectateurs en moyenne à plus de 400 000. Éric Zemmour, aujourd'hui...
Il a multiplié par 5.
Il a multiplié quasiment par 5. Et vous savez, quand on regarde sur les courbes, la minute la plus forte de CNews tous les jours, elle se situe vers 19h50 et elle est quasiment à 600 000 téléspectateurs. C'est devant Éric Zemmour.
Autrefois, c'était 80 000. Il y a le succès d'Éric Zemmour, mais aussi le succès, l'irruption d'un personnage assez incroyable, le médecin, professeur Raoult.
Le professeur Raoult, ouais, c'est la star des chaînes info. Il est allé sur LCI, il est allé sur BFM. Il était chez Jean-Jacques Bourdin il y a 15 jours. Il a fait 1 million de téléspectateurs. C'est un record historique pour Jean-Jacques
habituellement,
Bourdin.
C'est combien l'audience à ce moment-là ?
Ah bah, c'est plutôt 700-800 000.
D'accord. Voilà pour les succès. Il y a la crise économique, pardonnez-moi.
Oui, non, j'allais dire, il y a des programmes aussi qui ont bien marché en dehors de l'info. Évidemment, Koh-Lanta a cartonné. C'est une des émissions du confinement. Ils ont fait leur meilleure saison depuis 6 ans. Il y avait quasiment 7 millions de personnes devant Koh-Lanta le vendredi soir pendant la période. C'est 2 millions de plus que l'année dernière. Et puis d'autres émissions, des vieilles marques qu'on pensait déclinantes, qui ont bien marché. Je pense à Top Chef qui a fait une super finale.
Ouais.
Voilà. Donc évidemment, de cette période, on retient des visages, il y a des figures, il y a des gens qui ont émergé, il y a des gens qui ont crevé l'écran.
Qui alors ?
Bah, je pense à Cyril Lignac, par exemple.
Ah oui.
Avec tout son cuisine.
Ah oui, il faut raconter. Pour qui n'a pas vu, c'était une émission qui avait été improvisée de briquet de broc.
Exactement.
Il était chez lui avec des gens qui étaient un peu partout en France.
Exactement.
Et qui essayaient de refaire en temps réel les recettes de Cyril Lignac.
C'est ça.
Et contre toute attente, carton.
Carton, 2,5 millions de téléspectateurs, ce qui a permis à M6 de retrouver des audiences qu'ils n'avaient pas eues depuis des années.
Et surtout sur la cible tant convoitée des ménagères.
Exactement. C'est là que c'est un carton. Et c'est une émission qui a été montée en 48 heures. Et c'était un vieux rêve de Cyril Lignac d'avoir une émission de cuisine en direct. Et il a un peu remis les Français au fourneau.
Selon vos infos, elle va continuer cette émission à la rentrée ?
Non, a priori non. La direction d'M6, Nicolas Taverneau, était très emballé par le projet. Mais Cyril Lignac, il a d'autres engagements ailleurs. Il a des restaurants, des chocolateries. Et a priori, il ne va pas revenir.
D'autres noms qui ont frappé ?
Bah évidemment, moi je pense à Yann Barthès sur TMC. Parce que ça fait 4 ans qu'il y est. Et il n'a jamais fait des scores pareils. Son émission quotidienne a gagné 300 000 téléspectateurs en un an.
Mmh.
Certains spécialistes disent que c'est un cas d'école. Parce qu'une émission qui gagne autant... comme ça, dans la durée.
300 000, c'est beaucoup, parce que c'est pas des scores énormissimes. Donc 300 000, c'est comme s'il gagnait 20% en
Exactement.
Un an. C'est vraiment très, très
Exactement.
Puissant.
Vous savez, quand il a pris l'émission il y a 4 ans, il disait « si on fait 500 000 téléspectateurs, j'ouvrirai le champagne
».
Il a fait plusieurs records à 2 millions. Il a même été jusqu'à 2,5 millions il y a 15 jours. Donc ça, c'est un vrai succès. D'autant qu'il a gagné, il a élargi son public. Il a même gagné des gens de plus de 50 ans, plus 30%. Donc ça veut dire vraiment que le public s'est élargi.
En même temps, il a été aidé par la concurrence, parce qu'à ce moment-là, Cyril Hanouna n'a pas réaliser son émission Touche pas mon poste dans les conditions habituelles. Il a même arrêté l'émission.
Il a arrêté l'émission. Vous savez, Hanouna, c'est un fils de médecin. Le Covid, il a pris ça très au sérieux tout de suite et il s'est confiné le premier en rapatriant son émission chez lui, ce soir chez Baba, mais il a perdu 500 000 téléspectateurs au passage.
Et aussi, si on est bien informé, il y a eu des cas de Covid dans l'équipe de Quotidien et c'est pour ça qu'ils ont disparu de l'antenne. À un moment donné, on peut dire un mot quand même d'Anne-Elisabeth Lemoine.
Anne-Elisabeth Lemoine, c'est aussi un sans-faute.
Ouais.
Avec C'est à vous, l'émission a reçu tous les médecins. Elle a été sérieuse, elle a gardé un peu de légèreté, mais en tout cas, elle a tracé sa route et aujourd'hui, elle est incontournable en Access Prime Time.
Est-ce que le confinement a eu une incidence sur le mercato télé, François ?
Je pense à des gens qui potentiellement n'auraient plus été là à la rentrée et qui vont l'être. Je pense à Yves Calvi sur Canal+, avec l'info du vrai, qui est là depuis, c'était sa troisième saison. Je pense que la direction de Canal+, au regard des audiences un peu décevantes, pensait que ça s'arrêterait là. Finalement, c'est une belle marque pour la chaîne. Ça plaît aux abonnés et ils ont considéré que dans le contexte d'actu, sans savoir ce qui allait se passer dans les mois qui vont arriver, s'il y aurait une deuxième vague ou pas, que c'était bien de garder un talk d'infos de référence.
Alors maintenant, le mercato de la rentrée, quid des uns et des autres. D'abord, quid de Laurent Ruquier qui a défrayé la chronique toute cette saison.
Exactement. Eh bien, Laurent Ruquier, c'est sa dernière samedi soir. D'ailleurs, il nous a accordé une interview au Parisien qui est en ligne et que vous pourrez lire demain.
La dernière dont on n'est pas couché.
C'est la dernière dont on n'est pas couché après 14 ans. C'est pas rien. Alors, c'est une émission qui, au fil des années, s'est un peu endormie, qui a pâli en audience. Mais ça a été quand même 14 ans d'une grande messe. Ouais. C'était un grand rendez-vous, souvenez-vous. C'était quand même l'émission des interviews sensations.
Je me souviens très bien. Avec clashs. La première à 40% de part de marché.
Exactement.
Je me souviens très très bien.
Exactement. Mais en 10 ans, l'émission, elle a égaré la moitié de ses téléspectateurs.
Alors qu'est-ce qu'il va faire, Ruquier ? Il quitte France 2 ou pas du tout ?
Eh ben non, il quitte pas France 2. Ce sera même heure, même chaîne, puisqu'à partir, a priori, de fin septembre, début octobre, il lancera une nouvelle émission. La vraie différence, bon, c'est qu'elle sera en direct. Et c'est ce qui a aussi fait défaut à On n'est pas couché.
Le samedi soir en direct.
Le samedi soir en direct, aux alentours de 23h, 23h30, jusqu'à 2h du matin. Et donc aussi, tout le pari pour lui, c'est de faire venir des invités, des vedettes en direct à cette heure-là.
Mais ça sera donc un show d'accueil.
Ce sera un talk show.
Ouais.
Mais il a changé de producteur, c'est plus Catherine Barma.
Ça sera
et donc, ce sera Philippe Tullier. Qui est le producteur des Grosses Têtes. Vous savez, les Grosses Têtes, c'est aussi de la télé, c'est pas que la radio, c'est aussi des prime time.
Ouais.
Et donc, c'est le même producteur. Et donc, ils veulent tout revoir du sol au plafond. Et ce que veut Ruquier, c'est refaire de l'humour. Il dit qu'On n'est pas couché, manqué de spectaculaire, qu'il a eu du mal à retrouver des humoristes d'un niveau de Foresti, de Jonathan Lambert. Et il veut de l'humour, il veut du rire. Et il n'y aura plus, a priori, d'interview politique. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit dans son interview.
Merci beaucoup, François Rousseau. Je rappelle, vous êtes journaliste au Parisien aujourd'hui en France. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va continuer à parler de Formule 1 avec Margot Laffitte. Pascal Clark va nous rejoindre. Mais d'abord, on marque une pause.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Bonjour Margot Laffitte.
Bonjour Philippe Bandel.
Vous êtes l'un des visages de la Formule 1 sur Canal+, avec Thomas Sénécal, Julien Febraud, Jacques Villeneuve, Franck Montagny. Pour la 8e année consécutive, c'est Canal+ qui suit la Formule 1, même si TF1 est un peu revenu faire des incursions, seulement 4 Grands Prix par an, mais c'est déjà 4 Grands Prix. Vous êtes avec nous car c'est ce week-end le démarrage enfin de la saison de Formule 1, première compétition mondiale d'après le confinement. Ça vous manquait ?
Oh, terriblement. C'était très très long hein, depuis fin novembre. Ouais.
Et ce qui vous manquait, c'était quoi ? C'était la F1, l'adrénaline ou le travail ?
Le tout. Le travail, beaucoup. Je pense que ça a manqué à ceux qui n'ont pas travaillé durant cette période. D'autant que moi, je sortais d'un congé maternité, donc c'était encore plus long. J'ai arrêté le dernier Grand Prix, je crois, en octobre.
Ouais.
Donc ça faisait long.
Cette saison 2020 va rester unique dans l'histoire. Elle devait démarrer avec le Grand Prix d'Australie en mars dernier. Moi, j'étais devant ma télé. Et le vendredi matin, une heure avant les essais libres, alors que toutes les équipes étaient sur place à Melbourne, tout a été annulé. Les portes du circuit n'ont pas été ouvertes au public, alors que toutes les équipes, évidemment, étaient à l'intérieur du paddock. Canal+, était à l'antenne. Vous étiez où ?
Moi, j'étais en train de pouponner. C'était devant ma télé, mais en train de pouponner.
Voilà, parce que vous avez accouché un mois avant. Donc, la Formule 1 reprend. C'est le Grand Prix d'Autriche ce week-end. Les essais libres aujourd'hui, les qualifs demain, la course dimanche. Ça va se dérouler à huis clos, sans spectateurs, mais sur place. Dans quelles conditions ?
Dans des conditions, dans un protocole sanitaire qui est très strict. Je pense qu'ils se doivent absolument, impérativement, d'être irréprochables. Donc, c'est-à-dire que tout le monde porte un masque, bien entendu, mais même à l'antenne. Hier, on a vu Laurent Dupin et Franck Montagny sur place, micro à la main, avec le masque. Donc, ce sont des conditions qu'on ne voit pas en télé aujourd'hui en France, puisque tous les plateaux, ici à la radio, on est sans masque. On se voit, on lit sur nos lèvres, on se parle, on peut en tout cas presque se toucher, tandis que là-bas, c'est vraiment 2 mètres à respecter. Le carré des interviews, habituellement, où on est très proche des pilotes, c'est une perche qui est tendue pour avoir cette distanciation de 2 mètres. Donc, ce sont des conditions vraiment hyper draconiennes. Et ça fait, j'imagine, un peu bizarre, même si je pense qu'à l'antenne, une fois que la séance va être partie tout à l'heure sur Canal...
On va oublier, évidemment. Ouais. Mais pourquoi est-ce strict à ce point ? Parce que c'est vrai que c'est frappant quand on voit les images déconfinées de ce qui se passe en Europe. Pourquoi c'est à ce point ? C'est pour montrer des images très, très dures, je veux dire par là, très spartiates au reste du monde, ou est-ce que vraiment on a peur que le virus revienne? Parce que je rappelle que la première fois en Australie, si je me souviens bien, c'était un mécano de l'équipe McLaren qui était affecté par le Covid, et comme les mécaniciens évidemment sont les uns sur les autres, c'était trop dangereux de continuer.
Mais il y a un devoir d'exemplarité effectivement, parce qu'aux yeux du monde, ils se doivent de respecter tout ça et être irréprochables pour qu'on ne puisse pas les taxer ça. Et surtout, s'il y a un cas avéré, alors ils ont procédé de manière très singulière. Hein. C'est un nouveau protocole qui s'est mis en place avec des groupes, des sous-groupes, pour si un cas est avéré dans un sous-groupe, on puisse le détacher et continuer avec les autres sous-groupes. Donc, mais c'est, je pense, pour être exemplaire et pour ne pas annuler la suite du championnat.
J'ai vu l'émission que vous présentez le soir, j'ai regardé hier. C'est au point que les pilotes déjeunent et dînent avec un groupe de 5 personnes, comme
c'est
ça.
C'est génial.
Oui, mais enfin, si on ne s'entend pas ou si on s'engueule.
Ah, ça va être non, là.
Il ne faut pas s'engueuler.
Les 2 semaines d'affilée, ça va être compliqué.
Donc, Margot Laffitte, si vous êtes dans ce studio, c'est que vous n'êtes pas en Autriche. Au début, j'ai réfléchi. Donc, qui de l'équipe sera sur place? Les commentateurs, Julien Febraud, Jacques Villeneuve, ils sont où?
Alors, eux, ils n'ont malheureusement, pour eux, pas le droit d'être sur place. C'est compliqué parce que quand on est commentateur, on a besoin d'être dans le paddock, on a besoin d'être au contact des gens. Alors, même si, évidemment, Julien Febraud et Jacques Villeneuve vont œuvrer depuis Paris en appelant les gens sur site, en certainement faisant des réunions, en parlant à leurs interlocuteurs habituels, sauf que vous savez, ça ne remplace pas l'humain, le contact.
Je le sais, donc, mais il y a quand même des gens sur place.
Bien sûr, il y a Laurent Dupin et Franck Montagny. On peut dépêcher, il y a très peu de télé. Hein. Il y a 6 ou 7 télés seulement qui sont présentes. Canal+ a le privilège de faire partie de cette équipe très restreinte. Et il y a juste 2 envoyés spéciaux avec une petite équipe réduite technique autour. Et c'est parce qu'en fait, on ne peut pas avoir accès de toute manière à faire des émissions depuis le paddock. L'accès à la voie des stands est interdit. Donc, ça ne sert à rien de dépêcher une plus grosse équipe puisque de toute façon, les moyens sur place sont...
Mais eux pourront quand même aller voir les écuries dans les stands, à distance.
Ils ne pourront pas aller dans les stands. Ils pourront être dans le paddock. Ils ne pourront pas aller comme d'habitude, Franck Montagny qui... nous réjouit de tous ces commentaires et analyses sur place dans la voie des stands. Là, il ne pourra pas y aller, donc ce sera une autre manière de travailler avec la F1, en tout cas pour les 8 premiers Grands Prix.
Alors, des nouvelles émissions, il y a la grille avant le Grand Prix, il y a Formula 1 après le Grand Prix, mais il y a une nouvelle émission qui s'appelle En Pôle. C'est quoi l'idée, émission que vous co-présentez en alternance, vous-même et Thomas Sénécal? C'est quoi l'idée?
L'idée, c'était cette semaine de faire monter en puissance le retour de la F1, fêter, célébrer le retour de la F1 sur les antennes de Canal, de cette manière-là, c'est-à-dire en encadrant, en montrant la passion qui anime évidemment toutes les équipes Canal, ce pourquoi les sports mécaniques ont une présence aujourd'hui plus importante à l'antenne, grâce à Thierry Schellmann, à Didier Lahaye, parce qu'aujourd'hui on a vraiment une offre qui est assez incroyable entre l'IndyCar, la Formule électrique, le championnat de France des rallyes, la moto évidemment, la F1, donc c'était aussi pour faire une place importante au sport mécanique et arriver
à la culture, parce que le premier invité dans Pôle, c'était le chanteur Benjamin Biolay, dont le nouvel album s'appelle
Grand Prix.
Dans un instant, on va l'entendre tout à l'heure, Grand Prix, justement, et Biolay. On va continuer de parler de F1 avec Margot Laffitte et Pascal Clark. La voix nous rejoindra. Elle va prendre les rênes de Culture Média dès lundi pour tout l'été. On en parle juste après ceci.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Margot Laffitte, une des figures de la Formule 1 sur Canal+, qui présente l'émission En Pôle, mais pas seulement. On va parler de la F1 qui reprend avec le Grand Prix d'Autriche. C'est dès ce week-end sur Canal+ et en Autriche, mais sans spectateurs là-bas sur le circuit. La saison devait comporter 22 ou 23 courses. Évidemment, elle a été réduite, tronquée. Combien de courses cette saison?
Pour le moment, il y en a 8 qui sont confirmées durant l'été. Ouais. La fin de championnat n'est pas encore confirmée. Il pourrait aller jusqu'à 14, 15. Je pense que ce serait le maximum.
Je vais citer les courses. Donc ce week-end, le 5 juillet en Autriche. Le 12 juillet en Styrie. C'est où la Styrie?
En fait, c'est la région où se trouve... c'est sur le même circuit. C'est en Autriche aussi. Mais ils ne peuvent pas appeler... Voilà,
c'est comme s'il y avait le Grand Prix de France et le Grand Prix de Bourgogne.
Exactement.
19 si juillet, Dijon, la Hongrie, Dijon-Prenois. Le 2 août, Grande-Bretagne. 9 août, Grand Prix du 70e anniversaire.
Ça, c'est pareil, c'est Silverstone, mais une autre manière de l'appeler.
Voilà, en Grande-Bretagne, le 16 août en Espagne, le 30 en Belgique, le 6 septembre en Italie, et ensuite, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Est-ce que ça risque d'avoir une incidence sur le championnat et de fausser les résultats? Si les écuries ne savent pas combien de Grands Prix elles vont faire?
Alors, fausser le résultat, je ne pense pas. Sportivement parlant, ça ne fausse pas le résultat. En revanche, je pense que c'est dans la stratégie à adopter pour une saison, si elle dure 20 Grands Prix ou si elle dure 10 Grands Prix. Effectivement, ce n'est pas la même chose pour les écuries, mais ça ne faussera pas le résultat.
Oui, mais si on sait qu'on doit économiser les moteurs, mais qu'on ne sait pas combien de Grands Prix on doit faire.
C'est vrai, c'est une bonne remarque, Philippe, vous connaissez bien la Formule 1, mais je pense qu'ils sont partis aujourd'hui dans un système qui de toute manière est adapté à la situation, au fait que la saison est démarrée plus tard, au fait qu'on ne sait pas quand elle se terminera, mais a priori on va quand même partir, je pense, sur une saison de 14 ou 15 Grands Prix, puisqu'on parle déjà du Grand Prix du Mugello, ça sera peut-être plus de Grands Prix encore en Europe, mais je pense qu'on terminera à 14 ou 15 Grands Prix.
Alors il y aura 3 pilotes français, voire presque 3 plus 1, Pierre Gasly chez Toro Rosso, Romain Grosjean chez Haas, Esteban Ocon qui arrive chez Renault, et surtout la star de Ferrari, Charles Leclerc, il est monégasque mais c'est quasiment un français. C'est important pour vous, j'arrive à une question média, d'avoir des Français pour l'audience, pour faire des abonnements sur Canal+, ou alors les fans s'en moquent et sont là pour les voitures?
Je pense que c'est un peu les deux réponses. Je ne veux pas être démago, mais je pense qu'on aime les Français, on aime les suivre. Si on avait un Français qui gagnait, peut-être que ça influencerait les audiences. En revanche, aujourd'hui, on a eu 2 Français, 1 Français, 3 Français maintenant, le monégasque. C'est certain que, par exemple, la montée en puissance de Charles Leclerc, l'arrivée chez Ferrari... ça booste certainement un petit peu l'enthousiasme de notre audience, mais je ne pense pas que ça gonfle l'audience.
C'est la raison pour laquelle, il y a 8 ans, TF1 avait laissé filer les droits de la Formule 1, d'abord parce que c'est cher et puis il n'y avait pas de Français, donc les audiences étaient moins bonnes le dimanche après-midi, mais finalement TF1 est revenu. J'ai contacté TF1 ce matin pour savoir s'ils allaient diffuser des Grands Prix. Ils m'ont dit oui, on va diffuser 4 Grands Prix, mais on n'a pas encore décidé lesquels. Je pense qu'ils vont attendre de voir le début de la saison pour décider. La F1, c'est un sport de plus en plus connecté. Il y a une appli F1 qui fonctionne de pair avec MyCanal. Comment ça marche? Vous savez ça ou pas?
Oui, oui, bien sûr. Enfin, de pair avec MyCanal, c'est-à-dire qu'on est sur la F1 de la même manière qu'on l'a toujours été lorsqu'on a développé ce système-là. C'est-à-dire qu'on peut suivre la course d'une autre manière, avec un support en plus, à savoir les chronos, à savoir des caméras embarquées supplémentaires. Donc c'est une offre qui se fait dans le foot à Canal avec l'appli. Donc c'est quelque chose qui est connu déjà.
Voilà. Et face à vous, Margot Laffitte, une grande voix de la radio. Bonjour Pascal Clark.
Bonjour Philippe Vandel.
Je suis tellement content de vous entendre dans ce studio. Il y a dans quelques minutes, mais lundi, c'est vous qui serez à ma place.
Bah, il paraît.
Pour tout l'été, il paraît pas. Ne lâchez pas en cours de route. Pendant 6 semaines, c'est vous qui allez présenter Culture Média.
7 semaines, si j'ai bien compté.
Semaines, du lundi,
si vous avez décidé de revenir un peu avant. Mais...
Non, donc 7 semaines.
Une semaine de plus de vacances.
Voilà, du lundi au vendredi, toujours de 9h à 11h. Alors, avant de savoir ce qu'on va trouver dans l'émission, vous allez évidemment mettre votre patte. D'abord, Question Média. Je sais que c'est Europe 1 qui vous a contacté. Pourquoi avoir dit oui, à part la joie de passer tout l'été à Paris?
J'avais envie, c'est très très simple. Je suis un peu binaire, envie, pas envie. Là, j'avais envie, c'était très très clair. Pendant le confinement, j'ai vraiment regretté de ne pas être à la radio. Je pense que c'est un moment, on vit un moment. Et cet été, ce sera pareil, où il y a un lien qui est très précieux et un lien incroyable entre la radio et les gens qui l'écoutent. Donc voilà, ça m'a bien plu. Cet été va être spécial, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ou peut-être qu'il ne le sera pas.
Il sera d'abord spécial, puisque l'émission s'appelle Culture Média. Dans la partie culturelle, il y a d'abord tous les festivals qui sont annulés.
Oui, mais il se passe des choses. C'est-à-dire les institutions ont dû annuler effectivement les festivals, mais il se passe des tas de choses localement parce qu'il y a une espèce de réaction finalement. Et évidemment, on va parler de tout ça, oui.
Nos éditeurs ne seront pas perdus, on va retrouver la structure de l'émission.
C'est la même émission. En même temps, ce n'est pas la même.
J'ai bien compris.
Mais c'est la même.
Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Si on veut faire des citations.
Je me mets dans vos chaussures. Voilà. Heureusement, vous portez des baskets, donc je peux jouer avec les lacets. Vous
mais voyez. C'est quand même du 43. Alors, il y aura tous les jours le journal des médias de Martin Cangelosi. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on va retrouver comme figure, comme passage obligé?
Alors, passage obligé, le journal des médias, vous venez de le dire. Et puis le journal de la culture, avec un petit nouveau, une nouvelle voix, il s'appelle Damien Cabrespine. Ouais. Je pense que vous le connaissez peut-être.
Non, je ne le connais pas.
Eh bien, vous allez le connaître, j'espère que vous écouterez. Il est très très bien. Après, on conserve la structure de l'émission, mais peut-être que pour les invités, il faudra compenser, justement, pallier peut-être l'absence des gens l'été, donc on va se creuser la tête. Je peux vous dire pour lundi,
parce que je
sais que le temps file, on va parler de Marseille lundi, parce qu'il va se passer des choses, enfin il y a une bouillabaisse en cours, comme vous le savez, à Marseille, donc quelle est l'image de Marseille, comment parle-t-on de Marseille?
Dans les médias.
Dans les médias, avec un très grand spécialiste, le journaliste écrivain Philippe Pujol, qui écrit Albert Londres, et puis dans la partie culture, on va recevoir Camélia Jordana, elle est sur tous les fronts, elle est chanteuse, elle est comédienne et elle est, comme vous le savez, citoyenne. Voilà une partie du programme de lundi et ça va durer 35 émissions comme ça.
Et alors c'est drôle, commission, on est une émission média, je vous posais une question média. En avril 2017, vous aviez créé Boxon, le premier studio de podcast payant. Malheureusement, le site très ambitieux s'est arrêté à la rentrée, à l'automne dernier. J'ai bien suivi, vous n'aviez qu'un millier d'abonnés. Après un an et demi, il en fallait 6000.
Moi, je ne savais pas qu'on avait qu'un millier d'abonnés.
J'ai lu dans Télérama. Je me suis dit, je suis en face de Pascal Clark. J'ai intérêt à mettre ma source. C'est un papier Télérama. Ma question est la suivante.
Non, on n'a pas trouvé le modèle économique.
Est-ce qu'il n'y a pas de modèle économique pour le podcast en France payant, ou est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues?
Non, il n'y a pas de modèle économique sauf à travailler pour les marques, c'est-à-dire à faire du brand content.
Expliquez ce que c'est.
Eh ben c'est fabriquer des podcasts pour les marques, n'importe quelle marque, qui veulent, parce que c'est en vogue, donc ils veulent leur podcast. Et je me suis dit que j'avais pas fait 30 ans de journalisme pour travailler pour des marques. Donc pour l'instant, c'est en pause, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, sait-on jamais.
Je vous souhaite de faire play. Merci beaucoup Pascal Clark, on va vous écouter lundi à la tête de Culture Média, et je le dis, je suis ravi que ce soit vous. Merci beaucoup Margot Lafitte d'être venue ici dans l'émission. Les Essais Libres, c'est aujourd'hui à 11h, puis à 15h sur Canal, l'émission en pôle 17h45, les qualifs samedi 15h, la course dimanche à 15h. Je donne les oui, mais à 15h on prenait l'antenne quand même. 15h10, mais je donnais les horaires pour Pascal Clark qui n'était pas totalement au courant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Culture Média qui continue dans quelques minutes, les infos au journal de la culture, et puis ensuite tous ceux qui cette nous ont donné envie de découvrir un livre, un artiste, un spectacle, un disque, une série ou bien une recette, seront avec nous en studio. Il y aura Louise Bernard, Mathieu Charrier, Margot Barallon, Angèle Châtelier, Laurent Mariotte pour cuisiner tout ça. Ça sera juste après le flash de 10h. Merci à vous deux.